Très bien, donc en tout cas merci de votre invitation et de votre présence. Donc l'idée de manière un petit peu informelle de faire un parcours sur ces notions d'espace acoustique et cognitif, déjà pour effectivement me présenter, je travaille donc à l'IRCAM et je dirige une équipe de recherche en spatialisation 3D, on va dire. Qui s'intéresse aux notions d'espace dans sa manifestation sonore, que celle-ci soit envisagée de manière naturelle, c'est-à-dire les sons qui nous environnent et la manière dont on les reçoit, ou bien que celle-ci soit envisagée de manière artificielle quand on va construire une scène sonore avec des objets réels ou avec des moyens électroacoustiques. Alors, qu'est-ce que ça recouvre comme type de travail ? Encore une fois, donc, je suis plutôt dans la partie scientifique. Comme vous le savez, à l'IRCAM, il y a à la fois une communauté scientifique et une communauté musicale. En ce qui me concerne, je fais plutôt partie de la communauté scientifique qui va s'intéresser au développement de technologies de reproduction sonore tridimensionnelles comme celles qui sont évoquées ici. Alors, ça peut aller de l'objet le plus simple en apparence, qui est le casque, et jusqu'à des systèmes beaucoup plus compliqués, comme il y a à droite, avec des panneaux qui sont faits, réalisés avec des antennes de transducteurs extrêmement denses, ou bien encore des formats un peu ésotériques dont on dira quelques mots tout à l'heure. Donc voilà, c'est la panoplie des technologies en captation et en reproduction de manière à donc capter et reproduire ou synthétiser des scènes sonores tridimensionnelles. On verra ce que cela recouvre à la fois du point de vue de la localisation des sources dans l'espace et puis aussi de leur interaction avec l'environnement, comme ici dans cette salle qui est relativement sonore. Eh bien, vous avez évidemment, vous me percevez localisé dans une certaine direction par rapport à vous. Et puis, vous percevez aussi, même les yeux fermés, l'environnement qui, dans lequel nous sommes immergés tous. Alors, une fois qu'on a développé ces outils, eh bien, il faut, ces outils technologiques de diffusion ou de captation, bien entendu, on s'intéresse à développer des outils, cette fois, de contrôle, qui vont permettre de manipuler des scènes sonores au moyen d'interfaces plus ou moins complexes. Et puis, on s'intéresse aussi, c'est pour ça qu'on a donc abandonné le titre de l'équipe qui était avant acoustique de salle. Originellement, je m'occupais plutôt d'acoustique architecturale. Et puis, petit à petit, on est passé plutôt dans le domaine de la reproduction sonore pour le concert, mais aussi pour d'autres types d'applications, comme la réalité virtuelle, par exemple. Et ces aspects de réalité virtuelle nous incite en fait à réfléchir sur la notion de scène sonore auditive, de scène auditive, d'un point de vue intégré avec d'autres modalités sensorielles, en particulier dans les applications interactives, qui vont solliciter non seulement notre audition, mais qui vont solliciter d'autres modalités sensorielles, comme la vision, ou qui vont solliciter également d'autres modalités sensorielles comme la proprioception lorsqu'on va faire une action. Vous avez conscience de votre posture, de vos gestes, et ces gestes vont avoir éventuellement des conséquences auditives, peuvent avoir des conséquences visuelles quand vous prenez un objet. Tiens, je ne vais pas prendre le disque dur, sinon ça va faire une catastrophe. Si vous prenez un objet, c'est une conséquence visuelle, vous pouvez contrôler visuellement ce qui se passe, mais vous aviez aussi conscience de votre mouvement, eh bien, il peut se passer la même chose d'un point de vue auditif. Quand vous marchez, eh bien, vous entendez vos pas dans la salle. Et donc, c'est l'idée, voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la perception, mais cette fois, donc, une perception multisensorielle. Alors, ces notions d'espace, c'est donc un système de règles. Là, j'ai mis en regard différents. Il ne s'agit pas de faire un exposé très, très formel, mais j'ai mis en regard un certain nombre de paramètres en fait, qui nous permettent de décrire, de cerner cette notion d'espace. Donc c'est à la fois un système de règles, de juxtaposition d'objets qui vont définir les relations entre ces objets sous forme de soit de figures, soit de distances, qui vont nous permettre donc de percevoir ces objets les uns par rapport aux autres. Ça implique des notions de géométrie, bien entendu, sur ces relations entre ces objets, qui peuvent être des relations de type qualitatif, la topologie, un objet est à droite d'un autre, ou bien des notions quantitatives, quand on va vouloir mesurer vraiment une distance entre deux objets, ou un angle entre deux directions. Ça a évidemment des liens avec la physique, c'est là que naît cette notion d'espace, puisqu'il s'agit pour l'acoustique de tout ce qui va être lié à la propagation des ondes acoustiques dans le médium aérien en particulier. Et puis, en changeant complètement de point de vue, la notion d'espace, c'est aussi un support pour la pensée, pour le raisonnement. C'est-à-dire que ça nous permet de catégoriser. Il n'est pas interdit de penser, à la limite, que quand on fait des gestes, d'ailleurs, ça nous aide à catégoriser, à placer les éléments, des relations de cause à effet. Donc ces notions d'espace vont nous permettre également d'articuler souvent un raisonnement. Maintenant, cette notion d'espace est également importante pour l'audition, puisque cette notion d'espace est à l'origine, par exemple, de ce qu'on appelle les effets de ségrégation auditive, de ségrégation de flux. Audio stream segregation en anglais, qui sont typiquement, l'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est celui du cocktail party effect, où vous êtes dans une assemblée, il y a plein de personnes qui parlent, et si la conversation de votre interlocuteur ou interlocutrice ne vous passionne pas fondamentalement, ou si vous avez une curiosité par rapport à des personnes qui sont un petit peu plus loin, eh bien vous allez pouvoir focaliser votre attention sur une autre conversation dans une autre direction de l'espace. Et ce, justement, grâce au fait que les sources déployées dans l'espace vont avoir une signature particulière qui va vous permettre, en fait, d'ancrer votre attention sur des phénomènes de timbre particuliers liés à cette direction qui vont se distinguer des sources venant d'une autre direction. Et donc cet effet de ségrégation, le fait de pouvoir suivre plusieurs conversations en même temps, va être facilité par la notion d'espace. En fait, j'aurais dû peut-être... moi, je me suis présenté et en même temps, je ne vous ai pas vous laissé vous présenter. Je ne vous ai pas laissé vous présenter. Et donc, je ne connais pas forcément non plus votre background. Alors, est-ce que c'est peut-être un petit peu long, comme on a pris déjà un petit peu de retard, c'est peut-être un petit peu long de passer tout le monde en revue, mais est-ce que vous pourriez me donner rapidement votre background? C'est plutôt du design sonore, vous êtes musicien, designer, électroacousticien.
Très bien, situez votre en trois mots. Chacun, il y a 7 personnes donc, au post-diplôme.
D'accord.
Il y a aussi des étudiants d'école du cursus qui viennent là. Voilà. Aux visiteurs libres, donc, mais c'est effectivement les gens du post-diplôme.
Très, très rapidement.
Voilà, allez-y.
On va dire musicien, c'est ça.
D'accord. Instrumentiste, mais compositeur aussi.
Ça m'intéresse parce que je suis un peu dans ces recherches en ce moment, de son dans l'espace.
D'accord.
Et en 3D aussi.
Ok.
Moi, je viens d'une formation Beaux-Arts. Mais ouais. Je suis aussi musicienne, instrumentiste.
D'accord.
Et je fais des trucs aussi en radio et
ouais.
Des installations.
Instrumentiste.
Percussionniste. Pour préciser.
Je parcours aussi à Beaux-Arts et puis je fais des installations multidiffusion.
D'accord.
Et musicienne.
Ok.
Arthur ouais.
Plastique, plutôt visuel, avec une grande influence sonore.
Ok.
Moi, DJ, je fais aussi conservateur, donc électro-acoustique.
Ouais.
Non, formation Beaux-Arts, plutôt installation sonore.
D'accord.
Et performance.
Très bien. Bon.
Tiens, c'est mixte.
Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Alors, bon, donc cet aspect de l'importance de l'espace par rapport à l'audition qui va nous permettre voilà, de faire la séparation de flux. Si vous êtes musicien, vous avez peut-être déjà entendu des illusions auditives assez classiques où vous alternez deux notes qui sont à des hauteurs fixes, ti-ti-ti-ti-ti, ta-ta-ta-ta-ta. Et donc, si vous alternez, ça fait ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Et donc, votre perception va plutôt, si les fréquences sont relativement proches, va plutôt entendre une espèce de trille. Et si vous augmentez la différence de fréquence, ti-ti-ti-ti, à ce moment-là, si vous faites ça assez rapidement, du coup, vous allez plutôt entendre deux flux continus, ti-ti-ti-ti-ti, alternant avec un tout-tout-tout-tout. Vous allez entendre deux voix séparées. Et donc, c'est votre perception qui va essayer de regrouper en fait les événements par leur communauté de fréquences. Donc si les fréquences sont proches, elle va avoir tendance à le considérer comme un seul flux et donc entendre plutôt un trille. Si les deux fréquences sont séparées, elle va plutôt avoir tendance à suivre de manière parallèle en fait les deux voies qui sont constituées. De la même manière, alors c'est un principe qui est, si vous êtes instrumentiste, qui est extrêmement bien connu pour les instruments monodiques, si vous jouez de la flûte ou autre chose, ou un piano, ou un instrument monodique, eh bien, c'est la manière de simuler le fait de pouvoir jouer à plusieurs voix, en alternant deux couches qui vont être suffisamment séparées dans l'espace, de manière à créer ces flux permettant à l'audition de s'accrocher sur des objets qui ont une certaine proximité fréquentielle ou séparés fréquentiellement. On peut travailler avec l'intensité. Et donc, quand vous faites une note répétée dans le grave, eh bien, vous avez plutôt intérêt à la jouer pianissimo. Ça vous donnera l'impression qu'en fait, elle est continue, que vous avez une basse continue, alors qu'en fait, c'est uniquement de temps en temps que vous jouez cette note. Donc, vous aurez intérêt, si vous voulez donner l'impression avec un instrument monodique d'avoir une basse continue, eh bien, vous avez plutôt intérêt à ce que cette note grave que vous répétez alternativement soit plus d'un niveau plus faible, de manière à donner l'impression qu'elle est continue et qu'au contraire, il y a l'émergence de la mélodie au-dessus. Vous pouvez aussi faire la même chose avec le timbre. Si vous jouez alternativement ces deux notes avec des timbres différents, eh bien, automatiquement, votre perception va les considérer comme étant organisées, souvent deux flux séparés. Et donc l'espace permet aussi de créer cette séparation de flux, va aider à cette séparation de flux. Donc cet espace va nous permettre d'identifier les sources, celles qui sont bien localisées, celles au contraire qui sont diffuses. Elle va nous permettre également d'identifier la transformation opérée par l'environnement sur ces sources. Donc on va identifier auditivement le lieu dans lequel nous nous trouvons. Et inversement, on peut voir aussi qu'il y a une importance primordiale de l'audition pour notre appréhension de la notion d'espace. Quand on dit espace, souvent on va penser en premier à la vision, parce que c'est celle qui va naturellement nous révéler une organisation des différents objets dans la scène, mais l'audition intervient également de manière prédominante, déterminante en tout cas, pour forger notre représentation de l'espace. C'est l'une des modalités sensorielles importantes pour accéder à la notion d'espace. Pourquoi elle est importante? Elle a un avantage sur la vision, c'est qu'elle est omnidirectionnelle. Voilà. C'est-à-dire que vous entendez depuis l'ensemble des directions, alors que votre vision est limitée évidemment à un secteur angulaire qui est relativement faible. Vous entendez à distance, alors vous voyez aussi à distance, c'est une perception distale, on peut percevoir des objets à distance, contrairement au toucher qui lui est à peu près omnidirectionnel, mais qui a un horizon évidemment limité par la longueur de votre bras. Et l'audition donc permet de distinguer la direction et la distance. Voilà. Alors, simplement pour... vous connaissez peut-être cette observation. Je vous fais lire ici un commentaire d'un article. « As soon as the experience commences, the singers place themselves in the mind of the listener at a fixed distance, some to the right and others to the left. » Donc, en gros, ben voilà... dès que l'expérience commence, on entend les chanteurs qui vont se déployer dans notre cerveau, dans l'esprit de l'auditeur, à des distances déterminées, certains chanteurs à gauche, certains chanteurs à droite. Donc, on sent une notion de retransmission spatialisée. À votre avis, quelle date, de quand date cet article ?
1850.
C'est un petit peu tôt quand même. Voilà, théâtrophone, 1881. C'est-à-dire que dès l'apparition du téléphone, on a la possibilité de transmettre une image auditive stéréophonique. C'était lors de l'exposition universelle à Paris. Donc, vous aviez à l'Opéra Garnier, si je me trompe, en devant de scène, sur le nez de scène ici, on voit des plaques microphoniques qui sont installées le long de la scène. Et puis, dans un pavillon qui est à un autre endroit de Paris, les visiteurs de cette exposition universelle peuvent aller s'installer devant un comptoir, chausser deux écouteurs qui sont en fait reliés aux voix gauche et droite, et entendre ainsi les chanteurs qui se déplacent sur la scène. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a eu la possibilité de transmettre du son, fil avec le fil, eh bien, on s'est intéressé immédiatement à la spatialisation. C'était même un service offert par les télécommunications de l'époque. Vous pouviez vous abonner à des théâtres, Proust en parle. On pouvait s'abonner à des spectacles retransmis par téléphone, des spectacles qui étaient joués dans des théâtres parisiens. En fait, la stéréo a disparu pendant une cinquantaine d'années parce que au moment de la radiodiffusion, donc sans fil, cette fois, c'était plus compliqué de transmettre deux canaux. C'était un petit peu compliqué au niveau des bandes passantes, des fréquences... à transmettre, et donc momentanément on a un peu oublié cette transmission spatialisée et on s'est contenté d'une transmission monophonique jusque dans les années 60 en gros, avec également l'avènement du micro-sillon qui a permis de graver non pas uniquement une piste mais deux pistes. Ça vous semble tellement loin, ça, en fait pour vous vous en foutez que ce soit 1881, Pour des gens comme moi, c'est l'âge de nos grands-parents, donc mes grands-parents, ils sont nés là, donc dans cette époque, donc effectivement, j'en suis encore un petit peu proche et je fais la différence entre une technologie qui est née en 1881 et une qui est née en 1960. Pour vous, c'est... Bref. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais passer là-dessus. Alors, maintenant, quand on s'intéresse, je franchis un bon phénoménal, la 1960, contacteur, Karl Stockhausen, qu'on ne présente plus, tellement c'est un pionnier de l'électroacoustique, qui va donc en particulier travailler sur non seulement les différents dispositifs électroacoustiques pour créer les sons, mais également pour travailler sur la spatialisation, animer une scène sonore, avec des moyens plus ou moins rudimentaires. Donc ça, c'est les interfaces utilisateurs de l'époque. Donc, comme il était pionnier et ingénieux, donc il avait installé ici un haut-parleur, et puis vous avez quatre microphones qui sont symbolisés ici. On voit un microphone ici, un deuxième, un troisième ici, et le quatrième dans cette direction. Et donc, pour chacune des pistes sonores qu'il avait créées auparavant avec différents moyens électroniques, eh bien, il est diffusé par ce haut-parleur en dirigeant vers les quatre micros et en superposant les différentes couches de manière à créer une scène spatialisée. Je vais tenter de passer un petit extrait de cette pièce. Ça devrait marcher. Qui est donc prévu pour 4 haut-parleurs. Et j'ai pris les deux ici et puis deux, je ne sais plus. L'idée n'est pas de faire passer l'ensemble de la pièce, bien sûr. Vous avez reconnu un certain nombre d'éléments de vocabulaire qu'on va retrouver ensuite dans toute la musique électroacoustique, avec soit des sons qui tournent en périphérie, soit des espèces de danse entre les différents haut-parleurs. Donc il y a déjà un vocabulaire qui se met en place, mais avec une certaine, évidemment, difficulté. On imagine bien une difficulté de contrôle, un petit peu fastidieuse certainement, pour le compositeur, devant prendre chacune de ces pistes, d'une part, et faire son mixage avec un chronomètre ici, de manière à suivre la partition, en tout cas les événements qu'il a en tête. Alors, c'est un premier exemple sur un travail avec l'espace d'un point de vue électroacoustique. Une autre illustration dans un domaine complètement différent sur cette notion d'espace et qui va nous ramener à cette notion de ségrégation de flux, c'est la pièce Coro de Luciano Guerrero, où un petit peu à l'image de l'ensemble de la création musicale de la fin du XXe siècle, eh bien, la partition commence quasiment systématiquement par une description de la topologie des instruments sur scène, et qui va ici revisiter en associant systématiquement dans chaque pupitre un chanteur et un instrument. Et donc en les regroupant par registre, soprano et flûte par exemple, de manière à ce que ces deux instruments étant dans le même registre timbral, enfin pas timbral mais fréquentiel, et étant regroupés spatialement, vont avoir tendance à fusionner, et il va donc créer ainsi systématiquement des couples chanteur et instrument en fonction de leur tessiture, de manière à travailler justement sur cette possibilité auditive de fusionner les sons qui vont venir d'une même région. C'est donc le même principe que la disposition orchestrale traditionnelle, où on va diviser les instrumentistes par pupitre, les premiers violons, les seconds violons, les altos, les violoncelles, mais cette fois-ci, donc c'est cette même volonté, mais redéfinie au cas par cas, pour chaque pièce. Bon, voilà, on pourrait trouver là aussi Groupon avec les trois orchestres de Stockhausen ou autres. Pour en revenir à cette notion de contrôle, c'est évidemment extrêmement important de dépasser une volonté des développements électroacoustiques, de trouver des outils auteurs qui vont permettre de faciliter cette manipulation, de ne plus en être avec cette table tournante dirigée en haut-parleur, qui est un peu fastidieux, mais d'avoir des moyens numériques qui vont permettre de faire ce travail. Vous avez ici une interface utilisateur où on aperçoit les vues de dessus avec l'emplacement des haut-parleurs. Et puis ici, ce sont les sources qu'on va pouvoir manipuler à la souris. Et éventuellement, on va pouvoir automatiser leur mouvement si on a une suite audio-numérique comme Pro Tools ou autre. Voilà. Alors là, il y a un petit peu deux logiques qui s'affrontent, je dirais. Il y a une logique de spatialisation qui va continuer à concevoir le haut-parleur comme étant une source, comme étant un instrument. Donc une source, c'est un instrument, il est localisé à un endroit donné et on va le prendre avec ses caractéristiques. Donc si vous avez suivi certaines créations du GRM, vous avez l'acousmonium avec donc son orchestre de haut-parleurs, dont chacun a des directivités propres, de manière à lui donner une identité. Non seulement une localisation dans l'espace, mais lui fournir, lui affecter une identité sonore grâce à sa directivité. On verra ça un peu plus tard. Et donc l'idée est plutôt d'envoyer des sons plutôt dans ces différents haut-parleurs en leur conférant une propriété, une spécificité particulière. Il y a une autre approche qui est diamétralement opposée et qui est plutôt l'idée, la volonté d'effacer le dispositif électroacoustique et de travailler plutôt sur des sources virtuelles. C'est-à-dire que le dispositif est là, normalement il devrait ne pas être vu, ne pas être entendu en tant que tel, et on a plutôt la volonté de créer des sources virtuelles qui peuvent à certains moments coïncider avec la direction d'un haut-parleur, mais qui peuvent aussi être situés à un autre endroit. Et l'idée dans ce cas-là, c'est encore une fois d'essayer que ces sources vivent indépendamment des haut-parleurs. Alors, je vais illustrer la première approche par un petit extrait d'une pièce d'Emmanuel Nunesch, qui lui est plutôt dans une optique justement instrumentale. Alors ce n'est pas un acousmonium, il utilise des haut-parleurs traditionnels, mais chaque haut-parleur est plutôt vu comme un instrument qui a sa propre identité, et il va assez peu travailler sur des sons tournant continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans la deuxième approche, l'approche où on essaie d'effacer les haut-parleurs, l'idée c'est d'avoir le moins possible la sensation que la source est présente sur le haut-parleur. On veut qu'elle existe aussi bien quand elle est ici, quand elle est fabriquée grâce à une combinaison de haut-parleurs. On veut qu'elle existe autant quand elle est ici, entre deux haut-parleurs, que lorsqu'elle est dirigée dans la direction d'un haut-parleur et qu'elle est émise par ce seul haut-parleur. Alors que pour Nesch, il va être vraiment, chaque haut-parleur est un instrument et il ne va pas chercher à créer, par exemple, des mouvements continus, ça va être plutôt des jeux de spatialisation, des rythmes spatiaux. Donc je vais charger le patch. Ça doit être celui-ci. Oui. Et je vais juste changer donc l'affectation des numéros. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 5. Toc. Voilà, donc c'est une écriture plus pointilliste. Vous avez ici une illustration des figures rythmiques.
Ça ne va pas très bien sur cet écran.
C'est différentes figures rythmiques qui apparaissent. Alors, un triangle ici, là un octogone, etc. Donc, il va y avoir au cours de la partition des jeux qui vont travailler simultanément sur les hauteurs et sur leur parcours dans l'espace de manière à créer des rythmes spatiaux ternaires, binaires, etc. De manière à rajouter une articulation supplémentaire par rapport aux hauteurs, au timbre, et rajouter donc l'espace comme paramètre musical. À l'opposé, je vais passer un petit extrait plutôt d'une pièce de Jonathan Harvey. La voici. Donc là aussi, je vais changer l'ordre des DAC. 1, 2, 3, 4, 7, 6. 5. Ça c'est bon. Voilà. Alors qui lui travaille plutôt dans une approche opposés, où les haut-parleurs ne sont plus censés être véritablement entendus, mais les sources vont être placées, si possible, à n'importe quel endroit et pas forcément là où il y a des haut-parleurs. Thank you. Bien. Voilà, donc là, vous avez vu l'organisation des pistes qu'il avait traitées au départ. Et donc, l'une des grandes conquêtes auxquelles nous sommes attachés, en fait, dans nos travaux, pas uniquement à l'IRCAM, mais dans d'autres lieux de recherche, c'est effectivement d'essayer de s'affranchir de la configuration du haut-parleur. Rappelons-nous la pièce de Schockhausen, créée pour quatre haut-parleurs, et qui est donc ad vitam aeternam destinée à être jouée sur quatre haut-parleurs qui sont censés être à 45 degrés, moins 45, 45, 135 et moins 135 degrés par rapport à vous. Difficile, une grosse question, comment va-t-on pouvoir faire lorsqu'on a un système qui est composé de plus d'enceintes ou de moins, comment faire pour avoir une description qui soit générique, un support matériel qui soit générique. C'est l'une des grosses questions en fait, technologiques qui se posent. Comment faire que les systèmes soient compatibles et que l'on ne soit pas rivé, fixé à un système donné. Là, on se retrouve un peu dans la même configuration. C'est une pièce qui date des années 80, si je me rappelle bien. Donc, c'est une pièce faite pour 8 pistes. Bon, là, ça tombe à peu près bien. On a 8 pistes. J'ai pas respecté tout à fait la géométrie. J'ai virtualisé les sources avec une certaine qualité, mais qui n'est pas forcément assurée dans tous les coups. Et donc, c'est un petit peu l'idée de travailler sur à la fois des systèmes de reproduction, mais également des dispositifs qui vont permettre de travailler librement et de pouvoir s'adapter à différents dispositifs électroacoustiques, quel que soit le nombre de haut-parleurs, quel que soit leur agencement dans la salle. Je vais donc arrêter ce... Où est ma souris ? Elle est là. Voilà. Cet exemple. Voilà. Et je reprends ici le cheminement. Voilà, autre exemple, un exemple de Pierre Boulez qui va mélanger à la fois l'orchestre et un ensemble de musiciens. Ça avait été joué dans différents endroits, mais également en plein air, à Carrière Bourbon à Avignon. Et donc dans cette configuration, l'orchestre est au centre, le public entoure l'orchestre et les solistes entoure les spectateurs. Un petit extrait de cette pièce. Ce sera fini ensuite pour cette première série d'extraits. Voici, donc toujours le même principe, je change mes DAC. Voilà, alors là, vous avez une approche un petit peu intermédiaire, en fait, puisque ça reste une approche instrumentale avec des points cardinaux dans la configuration de la pièce. Non seulement les solistes entourent les spectateurs, mais ils ont aussi chacun au-dessus d'eux une enceinte qui relaye l'amplification et les transformations qui sont réalisées en temps réel par l'ordinateur sur chacun de ces instruments. Donc il y a quand même des points d'ancrage particuliers, mais il y a aussi des sons circulants, à la fois un vocabulaire, instrumental, avec un instrument qui est augmenté par le haut-parleur qui lui est associé, et un monde électroacoustique qui utilise les mêmes enceintes, mais cette fois d'un point de vue plus global, plus périphérique, et y compris la spatialisation de l'orchestre qui est repris dans les haut-parleurs de manière à créer une immersion plus forte de l'orchestre. Et vous entendez donc ces systèmes de répons où il y a des phrases qui sont lancées par un instrument, répétées par l'autre, etc., pour jouer, alors, pas vraiment sur des rythmes spatiaux, mais plutôt sur une espèce de vision un petit peu dramatique des réponses entre les solistes et l'orchestre, ou entre les solistes eux-mêmes.
Excusez-moi.
Oui.
Est-ce que sur une pièce comme ça qui est destinée au départ à être jouée en public, oui, ou est-ce qu'elle a été pensée par le compositeur pour être diffusée après coup? Ou est-ce que c'est une tentative de reproduire?
C'est effectivement, il y a eu plusieurs tentatives pour reproduire. C'est un des grands défis, en fait, de transmettre cette musique spatialisée. Avec différents dispositifs, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est effectivement l'un des grands défis. Alors, les compositeurs, eux, sont vraiment attachés, notamment Pierre Boulez, était vraiment attaché à la notion de concert, d'où d'ailleurs même la création de l'IRCAM était dans cette perspective qui s'opposait un petit peu à la proposition acousmatique de pièces qui étaient jouées de manière un peu figée, en tout cas c'était le reproche qu'on pouvait faire. Et donc dans l'idée de Boulez, il y avait l'idée de favoriser l'interprétation en temps réel, c'est-à-dire que les sons sont rarement prédéterminés, préconçus, ils sont en fait produits par l'instrumentiste. Donc c'est l'instrumentiste qui produit le son, ce son est transformé. Alors l'algorithme de transformation est déterminé par le compositeur, il est réalisé par un réalisateur en informatique musicale, mais finalement le contrôle global du son reste entre les mains et le souffle de l'instrumentiste. S'il est hors tempo, eh bien le résultat, la conséquence de l'ordinateur sera hors tempo. S'il n'est pas dans le diapason, ce ne sera pas dans le diapason. S'il a une interprétation, un geste interprétatif particulier, celui-ci sera également transmis, relayé par la transformation qui est faite en temps réel par l'ordinateur. Donc effectivement, il y avait vraiment la notion de réinstaller cette notion d'interprétation dans le monde électroacoustique, d'imaginer l'ordinateur plutôt comme un prolongement de l'instrument et non pas comme une photographie qui est ou un film qui est joué de manière identique à chaque concert ou quasiment identique.
C'était complètement un peu à l'opposé de la musique concrète.
Voilà, alors les catégories sont. C'est un petit peu simplificateur, évidemment, mais il y a effectivement.
Ça veut faire des vagues dans
Écoutez, c'est hors de mes compétences, je ne suis pas historien de la musique. Simplement, effectivement, il y avait cette volonté de sortir la musique de la musique sur bande, en fait. La musique par ordinateur, de la sortir de son cadre de musique sur bande qui offrait relativement peu d'interprétation au moment de la diffusion. Voilà. Alors, ces premières illustrations musicales données, on va un petit peu changer de registre, si vous le voulez bien, et repartir sur des choses, entre guillemets, plus scientifiques. Alors, je ne sais pas je ne connais pas les cours, le programme des cours que vous avez eu jusqu'à présent. Et donc, je ne sais pas si vous avez eu des choses sur la perception auditive, des choses comme ça.
Pas particulièrement.
Pas particulièrement.
Pas particulièrement.
J'avais une question avant d'enchaîner sur autre chose.
Oui.
C'est-à-dire que là, on parle de son 3D en
oui.
deux dimensions,
oui.
mais pour moi, ça reste du son en deux dimensions.
Alors, là,
on reste toujours dans des configurations où les haut-parleurs sont au même niveau, et donc c'est sur un plan.
Absolument. Pour l'instant, on est en 2D, effectivement. On verra quelles sont les techniques qui permettent d'accéder à la troisième dimension, si j'ose dire. Sachant que, justement, alors, j'ai ce petit tableau, ça tombe bien. Je ne sais pas si vous allez le voir très nettement. Pour l'instant,
c'est un peu flou, hein?
C'est mieux.
Ah,
c'est mieux.
Ah, ouais.
Ah, c'est mieux. Bah,
oui.
Genre, on recommence.
Au début.
La première ligne est en l'air parce que je vais en parler maintenant. Ici, c'est un essai de catégorisation justement des techniques de reproduction sonore. On parle donc du binaural, de la stéréo, des 5-1 extension, ambisonique, WFS. Et puis, on va les distinguer en fait par les modèles sur lesquels elles s'appuient, le nombre de dimensions qu'elles sont capables de retranscrire, les techniques de microphone associées, leur nombre de canaux, la possibilité de hiérarchiser, on verra ce qu'on entend par là, le nombre de canaux de reproduction et la zone de la taille de la zone d'écoute. Alors effectivement,
l'espace dans lequel on se situe.
La zone d'écoute optimale pour la reproduction. Bon, je vais détailler chacun de ces aspects.
Okay.
Le premier aspect est important, en fait, c'est le modèle sur lequel elle s'appuie, ces différentes techniques. En fait, chacune de ces technologies utilise un modèle de description de scène, un certain formalisme, qui peut reposer soit sur une approche perceptive, on va créer une illusion sonore, la stéréo, c'est une illusion sonore. Où on va essayer au contraire de reconstruire physiquement le champ sonore. C'est-à-dire qu'on essaie de ne faire aucune approximation et il s'agit vraiment de recréer dans la salle d'écoute le même champ sonore que celui de la salle d'origine. Ce qui est un objectif assez ambitieux et complètement différent de l'objectif perceptif où il s'agit de s'appuyer en fait sur des propriétés perceptives pour donner l'illusion d'une image sonore en 2D ou en 3D. Et puis, il y a l'approche signal, qui est une approche un petit peu particulière, dont on parlera après. Alors, deuxième paramètre de catégorisation, le nombre de dimensions. Alors, la stéréo, celle qu'on connaît, c'est typiquement du 2D, c'est donc du 2D moins, puisque vous avez accès, si vous prenez ces deux enceintes qui sont face à vous, une enceinte gauche et une enceinte droite, et bien avec la technique stéréophonique, vous pouvez recréer une source fantôme qui va circuler d'un haut-parleur à l'autre et qui ne pourra pas aller au loin. Donc vous avez une première dimension qui va être l'angle, mais limité à un secteur angulaire relativement restreint, d'où le moins, et puis vous avez la possibilité de créer un effet de profondeur. Donc vous avez la distance et une partie de l'azimut. Donc c'est du 2D moins. Les techniques qu'on trouve maintenant dans les cinémas du type 5-1 ou autre, ce sont des techniques qui sont des extensions de la stéréo, c'est basé sur le même principe, mais simplement au lieu de s'appuyer sur un seul couple d'enceintes, eh bien on va entourer la zone spectateur par les enceintes, et puis de proche en proche, on va faire de la stéréo. Donc quand la source est, située, est censée être en face, eh bien on va faire un panoramique d'intensité entre les deux enceintes frontales, et puis quand on veut que la source soit dans cette direction-ci, eh bien on va changer de paire de haut-parleurs. On appelle ça en anglais pairwise panning, c'est-à-dire on prend des paires de haut-parleurs, la paire de haut-parleurs qui entoure la direction de la source virtuelle que l'on veut recréer, et on fait une balance d'intensité entre ces deux haut-parleurs. On abandonne tous les autres, mais on travaille sur celle-ci. Et puis maintenant, si on veut que la source fantôme apparaisse dans cette direction, eh bien, on change de paire de haut-parleurs et on applique les mêmes lois d'intensité que celles qu'on a utilisées pour l'enceinte, pour la direction frontale. Sauf que, effectivement, cette stéréo, elle marche bien quand c'est en face. Faire une stéréo sur les côtés, ça marche très moyennement.
Et sinon, dans les oreilles, hein.
Bien sûr,
ouais. Effectivement, parce que nos oreilles elles sont symétriques par rapport au plan médian et on est censé regarder en face. Voilà. Alors, on va retrouver une image à peu près correcte à l'arrière, puisqu'on va du coup se retrouver avec la possibilité de travailler sur la symétrie, sur la dissymétrie droite-gauche, justement, puis on va retrouver donc le même problème sur les côtés. Finalement, on en parlera tout à l'heure, les seules techniques 3D, c'est la technique ambisonique. On en parlera tout à l'heure. Elle est basée sur des dispositifs avec une enveloppe surfacique d'enceinte. C'est-à-dire qu'on va mettre les enceintes en hauteur, etc. On va essayer de faire une enveloppe, un hémisphère, plus ou moins régulier entourant la zone spectateur. On parlera de la WFS aussi, mais qui reste une technologie 2D. Et la seule autre technologie 3D qui existe, c'est une technologie qui est finalement relativement simple, qui fonctionne sur casque. C'est normal, finalement, avec nos deux oreilles, on entend en 3D. Et donc, on doit pouvoir, si on réfléchit bien, on doit pouvoir trouver une technique qui permette de refaire du 3D avec deux oreillettes, puisque de toute façon, on a deux oreilles. Peine de chercher plus loin. Et donc, on va en parler maintenant. Voilà, donc ça, c'est une vraie technique 3D. Et c'est l'une des techniques qui va permettre, justement, par exemple, de transmettre des spectacles ou des représentations de concerts en 3D et de manière et pour une diffusion domestique. Puisqu'il s'agit en fait d'une diffusion qui s'adresse au casque. Et au passage, ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'audition. Alors déjà, il y a une grande différence entre notre perception visuelle spatiale-visuelle et spatiale-auditive. Dans les deux cas, on a deux capteurs qui sont situés de part et d'autre du plan médian. On a deux yeux et deux oreilles, un œil gauche, un œil droit, une oreille gauche, une oreille droite. N'empêche que la sollicitation de ces deux capteurs, gauche et droit, ne joue pas du tout le même rôle dans la vision et dans l'audition. En fait, dans l'audition, la sollicitation de ces deux capteurs, oreille gauche et oreille droite, va nous permettre de distinguer la direction. Alors que pour les yeux, mettre à contribution l'œil gauche et l'œil droit, c'est pour pouvoir juger la distance et non pas la direction. En fait, avec un seul œil, vous pouvez toujours distinguer la droite, la gauche, sans aucun problème. Par contre, c'est grâce à vos deux yeux que vous allez pouvoir déterminer quels sont les plans. En fait, si je prends deux objets qui ont à peu près la même taille, deux stylos par exemple, voilà. Si vous ne regardez pas mes mains, et si vous fermez un œil, eh bien, il vous sera difficile de savoir quel est l'objet le plus proche de vous. à condition de, évidemment, faut pas regarder ma posture. Sauf si, évidemment, je les mets l'un devant l'autre, dans lequel cas, il y a une occlusion, et vous pouvez déterminer que le stylo en plastique est derrière. Mais si je ne les mets pas, si je les sépare de manière à ce qu'il n'y ait pas d'occlusion possible, avec un seul œil, ce sera très difficile de savoir quelle est leur distance relative. À moins que ce soit rigoureusement les mêmes objets et qu'il y en ait un qui apparaisse plus petit que l'autre. Mais s'ils ne sont pas, en fait, j'aurais dû prendre une souris et un stylo. Donc, du coup, c'est un petit peu difficile de les mettre en regard, de comparer leurs dimensions, parce qu'a priori, vous ne savez pas si c'est une petite souris, une grande souris, un petit stylo, un grand stylo. Voilà. Donc, c'est le fait d'avoir deux yeux qui vous permet de distinguer la distance. Alors que pour le système auditif, au contraire, c'est le fait d'avoir donc une écoute, de recourir à l'écoute binaurale, donc qui met à contribution les deux oreilles, ne va pas vous permettre de distinguer la distance. Vous pouviez le faire assez bien avec une seule oreille, mais par contre, ce sera essentiel pour déterminer la localisation en direction. Donc vous voyez que bien qu'on ait en apparence une parenté entre ces deux systèmes, visuel et auditif, avec à chaque fois deux capteurs situés de manière symétrique par rapport au plan de symétrie, au plan médian de la personne, eh bien, ils jouent des rôles qui sont très, très différents, en fait. Comment se fait cette perception auditive spatiale ? Eh bien, dans un premier temps, une source qui parvient de la gauche pour moi, donc de la droite pour vous, va arriver d'abord, compte tenu de la célérité du son. Vous savez que le son se propage à 340 mètres par seconde, et donc si la source est latérale, eh bien elle va arriver avec un certain retard du côté de l'oreille contralatérale par rapport à l'oreille ipsilatérale, avec quelque chose comme un petit peu moins d'une milliseconde de retard. Et votre cerveau est capable d'analyser cette différence de temps d'arrivée et en déduit une hypothèse sur la localisation de la source. Il sait que la source est dans les champs gauche ou dans les champs droit, suivant l'oreille qui a reçu en premier le signal sonore. En fait, les deux signaux sont comparés et la ressemblance à un retard près des deux signaux sont assez ressemblants, et ce retard va être perçu et va nous permettre donc d'inférer une hypothèse sur la localisation de la source dans l'espace. Ça n'est pas le seul élément, il y a aussi la différence de niveau. Effectivement, la source qui sera du côté ipsilatéral, du même côté que l'oreille, va être reçue par cette oreille avec un niveau plus fort que l'oreille opposée, l'oreille contralatérale. Alors, ce n'est pas tellement à cause de l'effet de distance. Ce n'est pas les 15 ou 17 cm ou la vingtaine de centimètres entre les deux oreilles qui engendrent une différence de niveau sonore importante dès lors que la source est à plusieurs mètres. Évidemment, quand la source est très proche, peut-être, mais quand la source est à plusieurs mètres, ce n'est pas les 20 cm supplémentaires qui provoquent cette différence d'intensité. C'est en fait le masque, la zone d'ombre que crée votre visage. En fait, votre visage crée une ombre acoustique vis-à-vis de l'oreille contralatérale qui va donc recevoir ce même signal atténué, donc non seulement retardé, mais atténué, et votre cerveau va donc conforter son hypothèse sur la localisation de la source dans l'émission droit ou dans l'émission gauche. Alors, c'est pas de manière dichotomique, c'est quand même pas uniquement qualitatif mais quantitatif. Le cerveau va analyser le retard, la quantité de retard et la différence d'intensité entre les deux événements captés par l'oreille droite et l'oreille gauche, et va en déduire un effet de latéralisation, une hypothèse sur la latéralisation. Est-ce que la source est complètement latéralisée ou est-ce que la source se rapproche du plan médian ou s'en écarte de l'autre côté. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, malgré tout, ça reste troublant parce que Il nous reste une question à résoudre qui est comment va-t-on distinguer l'avant et l'arrière? Parce qu'effectivement, une source qui est située à 45 degrés sur la droite et une source qui est située à 135 degrés sur la droite arrive grosso modo, provoque le même retard interoral, 0,5 millisecondes, disons, provoque à peu près la même zone, la même ombre acoustique, donc la même atténuation globale sur le son. Et donc, comment votre cerveau fait-il pour ne pas se faire écraser systématiquement en pensant que la mobilette arrivait par devant alors qu'elle arrivait par derrière? Voilà. Alors, il reste encore une différence, c'est qu'en fait, votre tête, ça n'est pas une sphère, ni une ellipsoïde, mais elle a un relief avec un nez, des orbites oculaires, un menton, des oreilles avec des papillons. Et donc cette ombre acoustique va agir de manière complètement différente en fonction des fréquences. En fait, notre tête, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des longueurs d'onde en acoustique. Donc là, après cette première demi-heure ou trois quarts d'heure musicale, on est passé dans le domaine scientifique. Là, donc les ondes acoustiques se caractérisent aussi par leur longueur d'onde. C'est-à-dire, c'est l'espace qui est parcouru par l'onde entre le moment du début de l'oscillation. Donc, si vous avez un phénomène périodique sinusoïdal, vous avez un début d'oscillation avec une alternance positive suivie d'une alternance négative. Et puis après, comme c'est périodique, ça se reproduit. Le temps que cette alternance se produise, eh bien, le phénomène s'est déjà propagé et il s'étale donc dans le temps. Il s'étale dans l'espace, je veux dire. Et son étalement va être évidemment proportionnel, inversement proportionnel à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, donc plus l'oscillation est rapide, moins le début de l'onde, si vous voulez, a eu le temps de parcourir de distance. Et donc, cette onde en haute fréquence, elle occupe une distance qui est relativement courte, une longueur d'onde qui va être de l'ordre de 2 cm pour les fréquences les plus hautes que nous sommes capables d'entendre. En revanche, pour les sons les plus graves, eh bien, cette fois, on a une période qui est beaucoup plus longue. Donc, le début, si vous voulez, de cet événement sonore a eu le temps de se propager déjà sur plusieurs mètres avant que la fin de l'oscillation soit intervenue. Et donc, pour les fréquences les plus graves que l'on entend, eh bien, on a des longueurs d'onde qui sont plutôt de l'ordre de 20 mètres. Donc vous voyez, il y a deux ordres de grandeur entre les longueurs d'onde les plus aiguës et les longueurs d'onde correspondant aux sons les plus graves. 2 cm pour les plus aigus, 20 mètres pour les sons les plus graves. Eh bien, les propriétés de masquage de la tête vont être complètement différentes en fonction des fréquences. Pour les longueurs d'onde grandes, 20 mètres, la tête est une tête d'épingle et c'est comme si elle n'était pas là. Et donc, en basse fréquence, les sons qui vont arriver à l'oreille ipsilatérale et contralatérale vont arriver exactement avec le même niveau. C'est comme si votre tête n'était pas là, vous êtes transparent pour les basses fréquences. En revanche, en haute fréquence, pour lesquelles les longueurs d'onde sont de l'ordre de 2 cm, votre tête devient un obstacle tout à fait remarquable et va affecter considérablement la zone d'onde, c'est-à-dire que cette fois, on va avoir une atténuation de l'ordre de 20-30 décibels entre l'oreille contralatérale, ipsilatérale et contralatérale. L'oreille qui va être opposée, elle subit une ombre acoustique importante et donc le son est très atténué. Mais encore une fois, notre tête n'est pas une simple sphère ni une ellipsoïde, elle a une forme beaucoup plus compliquée et donc il va y avoir des tas de variations de cette affirmation est-ce que c'est transparent ou pas transparent. Il va y avoir des contournements, des effets de diffraction très complexes qui vont moduler le timbre de l'oreille contralatérale par rapport à l'oreille ipsilatérale. Et notre cerveau va analyser ces différences pour, cette fois, inférer une hypothèse sur le fait que la source est située à 45 degrés devant ou à 45 degrés derrière. et de manière plus générale pour toutes les sources qui sont situées sur ce cône. On appelle ça le cône de confusion, c'est-à-dire que sur l'enveloppe de ce cône, donc vous imaginez l'axe interoral, un cône comme, comme les cônes, je sais plus quoi, là, les pavillons acoustiques, les cornets acoustiques, et bien le long de l'ensemble de ces directions, en fonction de l'angle de ce cône, et bien pour toutes ces directions, le retard interoral était le même, la différence de niveau interoral était la même, donc il y avait ambiguïté des indices par rapport à ça, et ce ne sera que ces mini-informations timbrales qui vont nous renseigner sur le fait que la source est plutôt située devant, au-dessus, derrière, en dessous. Deux choses. En fait, c'est, ça devient très compliqué à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, on va prendre un exemple très, très simple, on va se situer dans le plan médian. Et je vais comparer une source située devant, au-dessus, derrière, dans le plan médian. La seule chose, alors, pour toutes ces directions, le son arrive en même temps aux deux oreilles. Il arrive avec le même niveau aux deux oreilles pour l'ensemble de ces directions. Donc votre cerveau n'a rien à se mettre sous la dent, si j'ose dire, pour pouvoir déterminer leur direction. Il n'a que les informations de timbre, l'onde acoustique qui parvient de face, elle rencontre un nez d'abord et les pavillons d'une certaine manière. L'onde qui parvient du dessus et percute un crâne d'abord, et puis l'onde qui vient de l'arrière percute un objet qui a une forme différente. Et donc chacune de ces directions va s'accompagner d'un timbre différent. Et c'est ce timbre qui va vous renseigner sur la direction apparente de la source. Seul problème, si vous n'avez jamais entendu la source, est-ce que ce timbre particulier, c'est parce qu'elle vient de face, ou parce que c'est son timbre à elle, de cette source? Après tout, elle a bien le droit aussi d'avoir un hautbois et un violon, n'ont pas le même timbre. Et donc, voilà, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut avoir une pré-connaissance de la source, pour pouvoir distinguer si cette source vient de face, ou du dessus, ou de l'arrière. Si vous avez une préconnaissance, vous pouvez vous rappeler à quoi ça ressemble, je sais pas quoi, un hautbois par exemple. Et donc, si vous entendez un hautbois qui est déformé d'une certaine manière, c'est parce qu'il est du dessus. Il arrive par-dessus, ou par l'arrière, ou par devant. Mais si vous n'avez jamais entendu de hautbois de votre vie, d'où vient-il? Vous ne pouvez pas le savoir. Première difficulté. Deuxième difficulté, on a tous une tête différente, heureusement. Nous ne sommes pas des clones de tout le monde, d'un modèle unique. Et donc, pour chacun d'entre nous, cette signature acoustique particulière vous est propre. Vous seul êtes habilité à la décoder. Vous l'avez fait naturellement depuis que vous êtes né. Parce que depuis que vous êtes né, ben, vous êtes amusé quand vous étiez bébé à laisser tomber des affaires, ça vous amusait beaucoup de laisser tomber systématiquement. Et puis votre cerveau, il a travaillé pendant ce temps-là. Vous avez laissé tomber des billes sur votre droite, devant vous, derrière vous, à gauche, ça rebondit, etc. Vous vous êtes forgé une expérience auditive qui vous a permis d'associer systématiquement. C'est le même son que vous faites là, à chaque fois, mais effectivement, vous reconnaissez, vous avez appris à reconnaître cette partie. Vous avez associé l'événement que vous voyez ou que vous provoquez dans une certaine direction, et petit à petit, vous vous êtes forgé votre expérience sur cette signature acoustique. Mais c'est une expérience qui vous est propre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça peut se mesurer. On met des micros dans les oreilles du sujet qui est là, ou de la tête artificielle. On peut mettre des petits micros de quelques millimètres dans les oreilles, dans les conduits auditifs. Et puis, on met un haut-parleur dans une certaine direction. on lui fait émettre une impulsion qui avait donc un spectre plat, et on regarde le spectre qu'on obtient à gauche et à droite, enfin à droite et à gauche. En vert à droite, on voit la courbe ici. Donc encore une fois, au départ, le signal émis par le haut-parleur était plat, on avait égalisé le haut-parleur, donc courbe absolument plate. Arrivé dans le conduit auditif droit du sujet, eh bien, on remarque que le spectre est considérablement affecté. Il y a des zéros ici, c'est plusieurs dB, c'est des trous de 20-30 dB. Donc le spectre est très marqué. Et il est très différent du spectre obtenu à l'oreille contralatérale. Bon, on est à 45 degrés, donc ce n'est pas un massage traité. Malgré tout, on voit que quand même, globalement, la courbe rouge est atténuée par rapport à la courbe verte. Et puis, ça n'est pas une simple atténuation. C'est une atténuation qui dépend de la fréquence. J'ai oublié de dire que ça, c'était la fréquence. En basse fréquence, on voit que les deux courbes se ressemblent. Effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En basse fréquence, la tête est petite. Elle est transparente acoustiquement. C'est le même niveau. Et puis, à partir de 500 ou moins kHz, eh bien là, on commence à voir des effets très marqués, des zéros acoustiques, qui vont être une signature pour cet individu de la provenance de la source dans cette direction. Si je recommence cette mesure dans une autre direction, ça j'en parlerai après, je recommence dans une autre... Bon, enfin non, puisque mon truc insiste, je vais en parler maintenant. Je l'ai là aussi, c'est une autre direction, très bien. C'est une direction qui s'est rapprochée du plan médian. Donc on s'aperçoit que le spectre est moins marqué, et puis la différence entre les deux commence à s'atténuer puisqu'on se rapproche du plan médian, les deux oreilles se ressemblent davantage. Alors on peut utiliser ces filtres pour prendre un signal sonore quelconque, le filtrer à gauche et à droite par les filtres respectifs, le jouer au casque. Bon, à ce moment-là, on a retranscrit tous les indices qui nous étaient naturellement donnés pour entendre un son en 3D au casque. Donc, pour la personne sur laquelle on a fait les mesures, eh bien, cette source, bon, vous avez pris un violoncelle, vous avez filtré par ces deux réponses, et il aura l'impression d'entendre un violoncelle dans cette direction. Puisque les deux filtres correspondent à la transformation qui est mesurée quand une source est à 20 degrés.
Il faut un casque spécifique
du
coup
Non, il ne faut pas un casque spécifique. Par contre, c'est un petit peu fastidieux puisque ce qu'on a fait à 45 degrés, ce qu'on a fait à 20 degrés, il faut le refaire à moins 20 degrés ou à moins 45 degrés. On voit que cette fois, évidemment, les choses se sont inversées. Maintenant, c'est l'oreille gauche qui est devenu ipsilatéral, qui est du même côté que la source, c'est l'oreille droite qui est devenue contralatérale, donc c'est l'oreille gauche qui a un spectre plus fort que l'autre, et puis on va retrouver des motifs spectraux très particuliers et qui sont propres à cette personne. Voilà, alors on fait ça dans une chambre anéchoïque, avec un dispositif qui ressemble à ça. Et puis évidemment, on ne va pas se contenter de le faire pour 3-4 directions, on va le faire pour toutes les directions. Donc la personne est assise sur une chaise tournante, puis tous les 5 degrés, on refait un signal, donc il y a le haut-parleur qui est là, et puis ici, on va scanner l'ensemble des directions. Les haut-parleurs sont montés sur un bras articulé qui peut monter et descendre jusqu'à moins 40 degrés et puis monter jusqu'à 90. Et donc, on va aussi mesurer donc, l'ensemble de la sphère auditive. Donc, on va se fabriquer une base de données avec l'ensemble des filtres qui correspondent à la fonction de directivité de la tête propre à cette personne. Voilà. Et désormais, alors quand on regarde un petit peu ce que ça donne, simplement dans le plan horizontal, vous avez ici donc c'est l'ensemble des spectres qui sont représentés. Ici vous avez la fréquence, là vous avez l'amplitude, et là vous avez l'azimut. Alors vous remarquez que en basse fréquence, eh bien, le relief reste relativement plat. C'est-à-dire que la différence entre les différentes directions pour une oreille est assez peu marquée en basse fréquence. On a toujours le même niveau. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter en fréquence, quand on arrive en très très haute fréquence, on voit ici le côté contralatéral avec un boost des fréquences et le côté contralatéral avec une forte atténuation de fréquence. Mais on voit que ça n'est pas du tout monotone, c'est un relief qui est très, très chaleureux et qui, encore une fois, dépend de la personne.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est l'azimut ?
Alors, pardon, oui, l'azimut, c'est la direction mesurée dans le plan horizontal. Et l'élévation, alors normalement, il faudrait dire le site. Mais c'est un peu, ça fait un peu militaire. Le site, c'était l'angle vertical qu'on imprimait au canon pour. Donc voilà, normalement il faudrait dire le site et l'azimut. En anglais on dit l'azimut et l'élévation. Et donc voilà, c'est un peu plus parlant l'élévation que le site. Toujours est-il que voilà, on a une technique qui est impeccable puisque on mesure ce qui se passe et on le restitue. On ne peut pas faire mieux. En gros, c'est la transposition des techniques d'échantillonnage en audio numérique. Quand vous faites un synthétiseur, je veux dire, si vous avez un piano numérique chez vous, eh bien, ces pianos numériques, de plus en plus, au début, c'était fait par des modulations de fréquence, on a un peu laissé tomber cette technique. Après, on l'a fait par échantillonnage, c'est-à-dire qu'on a enregistré des pianos. Donc, ça vous permet, pour pas cher, d'avoir un Bösendorfer chez vous, un Steinway chez vous ou autre chose. Et on a enregistré quasiment note par note. Et on rejoue. Donc a priori, c'est un peu caricatural, mais a priori, on a enregistré, on vous le restitue. Alors en fait, le problème, c'est qu'on vous le restitue par des haut-parleurs et non pas par une table d'harmonie. Ce qui n'est pas du tout pareil. Mais en théorie, du point de vue du signal lui-même, effectivement, on a bien capté le signal d'un Bösendorfer ou le signal d'un Steinway, etc., note par note, et on a donc une banque de données de son qui ressemble à un piano. Et bien là, on fait pareil, on a une banque de données de filtres qui consigne l'ensemble des indices qui vous permettent d'entendre en 3D d'habitude. Le problème, c'est donc que ce sont des fonctions qui sont individuelles. Et donc, si je les ai mesurées sur ma propre personne, j'enregistre un signal de parole et que je filtre par les sources, des filtres correspondants à une direction avant, arrière, etc., quand je vais vous faire écouter ça, bon, vous n'allez pas être convaincu. Alors, pas être convaincu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un son est à gauche, vous allez quand même l'entendre à gauche. Ou alors c'est parce que vous avez mis le casque dans le mauvais sens. Puisqu'un son à gauche, pour chacun d'entre nous, c'est quand même un son qui a la propriété d'arriver avant à l'oreille gauche et ensuite à l'oreille droite. Donc il y aura quand même un retard. Il y aura un retard de l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche pour moi. Et pour vous, ce sera aussi un retard de l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche. Et donc, vous allez entendre la source dans le même émichant que moi. Très bien. Par contre, si je veux faire la distinction entre un son émis devant et un son émis derrière, que j'ai utilisé les filtres mesurés sur ma propre personne, eh bien, je vais avoir, si je reviens en arrière, des courbes qui ressemblent par exemple à ça. Et pour vous, ça, un 0 à je ne sais pas quoi, à 2350 Hz, et ici un autre trou sur l'oreille bilatérale à 6-7 Hz, ça ne correspond pas pour vous à un son qui est situé dans cette direction. Pour vous, ce serait plutôt un son qui est là ou qui est là. Et donc, du coup, la source va vous apparaître dans le jaune émichant, mais pas dans la bonne direction globale, pas à la même élévation que pour moi. Et en particulier, vous allez plutôt avoir tendance à entendre derrière. Alors ça, c'est une expérience qui a été faite, j'ai pas de transparent pour ça, mais c'est assez, assez facile. Enfin, moi, je l'ai quelque part, mais c'est pas grave. Il y a une expérience qui a été faite dans une chambre sourde, comme vous avez vu là tout à l'heure, ici. Donc, une chambre sourde, c'est une chambre où les murs sont garnis de matériaux absorbants. On dispose 5 haut-parleurs autour du sujet. Un devant, un à 45 degrés, un au-dessus, un à 45 degrés derrière et un à l'horizontale derrière. On lui bande les yeux, on l'assied, on lui fait écouter des messages de parole, et sa tâche est très simple, c'est de dire le son vient de face, le son vient de 45 degrés, du haut-parleur qui est au-dessus, du haut-parleur qui est là, ou du haut-parleur qui est là. C'est pas très compliqué comme tâche. On lui fait d'abord écouter des messages de parole qui ont été enregistrés sur des personnes qu'il connaît, des collègues, etc. Résultat, ah oui, j'ai oublié un point important. En fait, on n'a rien dit au sujet, mais le son sera toujours envoyé par le haut-parleur face. Il a pour tâche de désigner le haut-parleur machin, mais les autres haut-parleurs sont des haut-parleurs fictifs. En fait, c'est toujours le haut-parleur face qui fonctionne. Quand les sujets passent avec des messages sonores qui ont été enregistrés sur des locuteurs qu'ils connaissent, des collègues ou autres, 98% des réponses désignent le haut-parleur face. Bon, c'est un peu normal. Puis il y a toujours des gens un peu distraits, ou on ne sait pas très bien, enfin ils entendent des trucs, il y a 2-3% qui entendent ailleurs. Maintenant, quand on leur fait passer des messages de parole enregistrés sur des locuteurs qu'ils ne connaissent pas, la majorité des réponses se situe dans l'hémichamp, dans l'hémisphère arrière ou au-dessus, et il n'y a quasiment plus personne qui désigne la direction face. Donc on retrouve bien le fait que, en l'absence d'une préconnaissance de la source, eh bien il y a indétermination. Si en plus, alors je ne me rappelle plus si les gens ont les yeux bandés ou pas, mais il n'y a rien, en tout cas, même s'ils n'ont pas les yeux bandés, il n'y a rien qui ressemble plus à un haut-parleur qui fonctionne qu'à un haut-parleur qui ne fonctionne pas. À moins de faire de jouer de la contrebasse et de voir vraiment la membrane qui bouge, vous ne voyez pas très bien la distinction. Et donc, quand vous ne pouvez pas vous raccrocher sur un événement visuel, eh bien, la solution pour votre cerveau, la situation qui ressemble plus à une source qui est située dans le plan médian. Oui, elle est dans le plan médian, elle arrive en même temps à gauche et à droite. D'accord. Elle arrive avec le même niveau à gauche et à droite. Mais vous ne la voyez pas. Bah, en gros, si en plus vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas vous référer à votre mémoire, eh bien vous avez toutes les chances de désigner plutôt une direction hors du champ de vision. Donc c'est la grosse difficulté de la technique binaurale qui, sur le papier, ne peut que fonctionner. On mesure, on rejoue, on restitue exactement ce qu'on a enregistré. Il n'y a pas de raison que le résultat ne soit pas bon. Et effectivement, si vous le faites écouter à la personne sur laquelle vous avez mesuré les réponses impulsionnelles, les fonctions de transfert, eh bien, le résultat sera très convaincant. Elle va entendre des trucs devant, derrière, au-dessus, etc. Mais si vous le faites écouter à une personne qui n'a pas... ne correspond pas aux mesures, eh bien, elle va avoir tendance à entendre tout derrière. Ce sera très difficile de recréer une illusion sonore qui soit convaincante devant, surtout s'il n'y a pas de stimulation visuelle correspondante. Maintenant, si vous avez la possibilité de mettre un hologramme, un avatar, ou même un piano, par exemple, si c'est du piano, vous mettez un piano avec un pianiste qui fait seulement jouer, là, vous allez replonger, ça va devenir convaincant, même si au niveau du timbre, ça ne correspond pas exactement à une source qui serait située à 45 degrés devant pour vous, le fait d'avoir un objet visuel cohérent va ancrer la situation et vous allez percevoir, ça deviendra une perception multisensorielle avec une distorsion qui ne sera pas suffisante pour casser la magie et pour que vous n'adhériez pas à la proposition. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? C'est important de voir finalement à quoi correspondent nos capacités auditives spatiales. Donc elles sont liées à cette différence de retard interoral, de différence de niveau interoral et de différence spectrale. Et donc si je reviens à ma stéréo, dans ma stéréo, en fait, je me contente de faire un panpot d'intensité entre mon haut-parleur gauche et mon haut-parleur droit. Donc effectivement, il manque quelque chose. Et je ne vais pas pouvoir donner l'impression d'une source qui est située dans n'importe quelle direction, qui est située au-dessus ou en dessous. Voilà. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des pauses ou pas de pauses ?
Faire une petite pause.
Je sens que l'atmosphère s'alourdit un petit peu.
Une petite question tout à l'heure.
Oui. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Simplement parce que est-ce que j'ai un transparent là-dessus ? Un transparent. Oui, c'est le dernier. Je n'ai pas. Il faudrait que je télécharge un autre fichier. Avec mon récent. Ouais. Là, je vais peut-être. Là-dedans, je vais peut-être trouver. Avec un peu de chance. Donc, pour faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la technique transorale. Oui, j'ai ce qu'il faut. Toc. Voilà. Et en fait, c'est le même principe que. La stéréo visuelle. En gros, la stéréo visuelle, vous projetez deux images sur le même écran, mais vous avez des lunettes à la glyphe qui permettent de filtrer et de conserver, de rétablir la confidentialité de l'image qui doit s'adresser uniquement à l'œil gauche et de l'image qui doit s'adresser uniquement à l'œil droit. Sinon, ça ne marche pas. Vous voyez les deux images, vous ne pouvez pas les recombiner. Donc, il faut absolument un filtre qui permette de retrouver, de restaurer la confidentialité de l'image gauche destinée à la gauche et de l'image droite destinée à la droite. Alors, mais soit des lunettes anaglyphes avec le système de filtre de couleur, ou alors c'est des filtres polarisants qu'on utilise en réalité virtuelle, avec des lunettes polarisantes, une verticale, une horizontale, et qui vont, pareil, filtrer les images qui ne correspondent pas aux objets. Bien. Ou alors vous pouvez aussi mettre des lunettes qui alternent, c'est-à-dire où il y a une occlusion très rapide entre les deux images et qui est synchronisée avec l'écran. Au moment où l'écran diffuse l'image gauche, eh bien l'œil droit est occulté. Au moment où l'image droite qui est envoyée sur l'écran, c'est l'œil gauche qui est occulté. Donc les lunettes sont synchronisées par rapport à la diffusion et ça va permettre de retrouver donc cette confidentialité. Donc là c'est pareil, en fait, le dans notre casque, normalement, il faudrait entendre uniquement par exemple, un message de parole qui a été filtré par la HRTF, le filtre qu'on appelle Head Related Transfer Function, HRTF, gauche, est destiné uniquement à l'oreille gauche. Il ne faut pas que la droite l'entende, sinon c'est foutu. Et pareil, le message de parole que vous avez filtré avec la HRTF droite, il faut qu'elle soit entendue que par l'oreille droite. Et donc, si vous diffusez ça sur vos deux haut-parleurs, ben c'est raté parce que votre haut-parleur gauche, il va être entendu par l'oreille gauche. Il ne va d'ailleurs pas être entendu directement. Il va subir un nouveau filtrage. Il est à 45 degrés. Donc, vous allez superposer le filtre de 45 degrés à ce que vous vouliez donner. Donc déjà, c'est pas clair. Et puis en plus, votre oreille droite, on l'entend. Pas de bol. Et pareil, à droite. Donc, si vous diffusez un message binaural sur les deux enceintes, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer de se débrouiller autrement. C'est possible. C'est possible. Alors, pour expliquer ça très, très rapidement, voilà, vous avez, imaginez que vous avez un signal que vous envoyez sur le haut-parleur gauche. Vous voulez obtenir un résultat donné dans ce point-là de l'espace. Admettons que vous ne l'obteniez pas, c'est-à-dire que vous vouliez obtenir un zéro acoustique à 1350 Hz, et puis, compte tenu que le haut-parleur est à cette distance-là, dans cette direction-là, vous ne l'obteniez pas. Vous pouvez toujours rajouter un filtrage pour provoquer un trou à 1300 Hz. Ah oui, mais seulement en ayant provoqué un trou à 1300 Hz, ben, ce trou va aussi apparaître ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir exactement ce que vous voulez en un point de l'espace. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours trafiquer de manière à obtenir ce que vous voulez ici. Mais une fois que vous l'avez ici, après, tout le reste, tout ce qui se passe ailleurs, c'est imposé par la propagation des sons dans l'espace. Vous avez un degré de liberté, vous pouvez contrôler ce qui se passe en un point, et c'est tout. Tout le reste sera imposé par ce que vous avez fait ici. Maintenant, si vous avez un deuxième degré de liberté, vous allez pouvoir contrôler, avec deux degrés de liberté, vous allez pouvoir contrôler le champ sonore en deux points de l'espace. Alors on appelle ça les trajets croisés, peu importe, on met un filtrage un peu sous entre le signal qui était normalement destiné à être écouté sur casque et puis les haut-parleurs. Moyennement quoi ? C'est comme si on annulait ici les trajets croisés. C'est-à-dire qu'en fait, on va exactement trouver en deux points de l'espace ce qui aurait dû. On crée un casque virtuel, si vous voulez. C'est les deux points de l'espace où vous devez mettre vos deux oreilles. Et là, c'est comme si vous aviez le casque sur la tête. Donc si le casque diffuse l'image sonore d'un son qui doit être dans cette direction-là, vous l'entendez dans cette direction-là. Si vous devez obtenir un son en infrarouge, vous allez l'entendre. Alors qu'en fait, les deux haut-parleurs sont devant vous. Mais si vous faites ça, c'est foutu.
C'est un peu comme une anamorphose, en fait.
Si vous faites ça, c'est complètement fichu. Si vous faites ça, c'est fichu. Si vous faites ça, c'est fichu. Si vous faites ça, c'est encore pire. Vous devez mettre vos deux oreilles exactement aux deux points de l'espace. C'est ce qu'on appelle la technique transorale. C'est assez magique, parce qu'effectivement, vous avez deux haut-parleurs. Vous vous mettez pile poil au centre et vous arrivez à entendre des sons qui sont qui viennent de la gauche. Alors qu'il n'y a pas de haut-parleur. Donc c'est assez magique. Mais certainement il faut chercher l'endroit. Vraiment, là c'est le sweet spot. Ce qu'on appelle le sweet spot, c'est l'endroit de l'espace où l'image sonore est recréée de manière conforme. Et bien là, dans ce cas-là, ce sweet spot, il est. Sweet spot, donc le point gentil, le point optimal. Ce point optimal, il sera vraiment à 1 cm près. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut servir dans des situations particulières, si vous êtes à un poste de travail. Si vous êtes à un poste de travail, plutôt que d'avoir un casque sur la tête et puis d'être un peu autiste et de ne jamais vous occuper de vos collègues, finalement, l'écran vous impose un peu une direction, une position. Sinon, vous avez mal au dos, etc. Donc, ouais. Et donc, dans ce cas de figure, vous pouvez très bien avoir deux enceintes qui vont vous permettre d'entendre des sons, de recréer une image sonore 3D. Alors, c'est quand même assez élégant comme solution, assez séduisant, parce que vous n'avez que deux enceintes. Ça ne coûte pas cher quand même. Vous pouvez avoir du son 3D avec deux enceintes. Vous pouvez avoir du son 3D avec votre casque. Donc c'est quand même pas mal. Mais il ne faut pas bouger. Pas loin de faire ça, pas ça, pas ça. Donc c'est plus un objet, on va dire, de curiosité qu'autre chose. On est en train de travailler avec des personnes au Conservatoire de Paris sur il y a une formation des métiers du son sur des techniques qui utilise partiellement le transoral de manière justement quand même à créer des images auditives sur les côtés. Mais on s'en sert plutôt comme une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'on fait du 5-1 normal avec du panpot, du panoramique sur les 5 enceintes, et on rajoute une couche de transoral, c'est-à-dire que les sons vont être à la fois panoramiqués, si j'ose dire, avec des panpots classiques à gauche, à droite, etc. Mais on va rajouter aussi ces mêmes sons avec une couche transorale, éventuellement même plusieurs couches transorales, qui vont créer une sensation d'immersion, la possibilité d'avoir des sons au-dessus, en dessous. Et bon, bah, si on n'est pas exactement à la bonne position, il reste quand même l'image stéréo ou l'image surround qui existe. Voilà. Et donc il y a quand même du son un peu partout. Et si on a le bon goût de se mettre à la bonne position, là, tout à coup, il y a le truc qui... Un peu comme les stéréogrammes, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les stéréogrammes, les livres avec une espèce de brouillard organisé, puis on vous dit concentre-toi, concentre-toi, puis tout à coup, tac, vous voyez des objets en 3D. Ben là, c'est un petit peu pareil, en fait. Donc, il faut un peu chercher, et puis tout à coup, hop, vous chopez la position, et là, effectivement, le monde s'éclaire en 3D. Pour pas cher. On fait une petite pause.
Allez.
Encore beaucoup de choses à dire, mais...